Chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait ce tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Il y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et voilà, on se retrouve pour notre nouvelle semaine cinéma et nous sommes très très heureux de retrouver Pascal avec beaucoup de fiches à ses côtés.
Un joyeux bazar sur mon canapé.
Ça
oui, beaucoup de fiches.
Ça
oui,
pourrait
oui,
faire l'objet d'un film.
Mais je m'y perds, oui c'est vrai.
Joli titre.
Et oui, je m'y perds parfois, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de papier aujourd'hui.
Ouais.
Et j'avoue que j'ai bien mis le bazar dedans. Je vais essayer de me retrouver. Donc, je les mets dans un ordre chronologique et je les attrape à chaque fois. Mais ouais. C'est vrai, des fois, tu devrais faire une photo, ça va être vraiment folklore.
Ça serait pas mal.
Ouais,
les coulisses de l'émission En Tract avec Pascal. Hein.
Et heureusement qu'on n'est pas à la télé.
Eh bien, je te laisse la parole, Pascal.
Eh bien, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 86 d'En Tract.
86. Et ça y est.
Ça porte bonheur, non?
Ah oui, moi je pense. Hein. 86, c'est un beau chiffre. Et puis surtout une belle semaine qui se prépare à la brèche. On est impatients
d'aller
voir
ce
joli film qui va arriver sur les écrans.
Alors, il y en a plein.
L'événement.
Il y en a plein. Déjà, cette semaine, ça va être super chargé. Alors, évidemment, le film attendu que la France attend avec impatience. Dis-moi, j'espère.
D'ailleurs, ça fait l'objet d'un petit reportage sur France 2, là, dimanche.
Ah oui, on en parle énormément.
On en parle énormément. Ça commence.
On parle de Napoléon, évidemment.
Ouais, ouais, ouais,
je tiens à le préciser.
On voit quelques extraits du film Napoléon, le nouveau chef-d'œuvre de Ridley Scott.
De Ridley Scott, hein, oui.
Voilà, qui sort sur les écrans
voilà,
cette semaine.
Et puis en plus, il y a plein de d'interviews de Ridley Scott déjà à Joaquin Phoenix. J'en ai vu encore aujourd'hui, et puis hier aussi. Hein, ils étaient au musée de l'armée. Hein, ils étaient vraiment devant les vitrines des costumes des maréchaux, du chapeau de Napoléon. Voilà, il y avait toutes ces reliques et tout. Il y a un truc que je ne savais pas. Il avait une mallette qu'il emportait avec lui. Je ne savais pas du tout que ça existait, par contre, ça.
Ah, c'était pour ses cachets, non? Parce qu'il avait des problèmes d'estomac.
Non, pas du tout.
Ah bon?
Parce qu'il il étudiait énormément les cartes d'état-major. Il est passé des heures et des heures dessus, voire des jours.
Ouais.
Et donc, dessus, il plaçait des petits pions. Ça ressemblait un petit peu à des pions de jeu.
Ah d'accord, c'est un petit peu des magnettes, enfin des...
c'est pas des magnettes.
Il faut qu'il n'y ait pas des magnettes.
Mais tu vois, c'est comme des pions de jeu, là, et il est posé sur les cartes, en fait.
Ah ouais.
Tel pion était celle de l'infanterie, de l'artillerie, de la cavalerie.
D'accord.
Enfin, c'était comme un coffret de jeu.
Ah ouais.
De loin, on dirait un coffret de poker, tu vois. Mais non, c'était ça. Je ne savais pas qu'il avait ça dans ses bagages, ce cher Napoléon. Donc voilà, donc on a eu beaucoup d'interviews de Ridley Scott, hein, et puis il apporte un petit peu sa vision aussi du film et comment il l'a construit. Hein. Et voilà, il a bien averti aussi. Attention, pour tous les puristes comme moi d'histoire, n'allez pas chercher l'exactitude d'un biopic. Voilà, on n'est pas chez Abel Gance, on n'est pas chez, tu vois, ces gros réalisateurs là. Donc on va dire c'est librement interprété. Évidemment qu'il y a les grandes phases de sa vie, mais si vous voulez, Ridley Scott a pioché à droite et à gauche. En fait, des séquences qu'il trouvait cinématographiques, on va dire, qu'il pouvait exploiter d'une manière cinématographique, quoi, voilà, pour faire des belles images. Donc voilà, hein, faut pas aller chercher le Napoléon politique, ni le Napoléon réformateur de l'Europe, tout ça, hein, le code civil, ainsi de suite, tout ça, on oublie tout ça. Hein. C'est vraiment axé sur le personnage, son rapport avec Joséphine, qui ne va pas durer d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment axé là-dessus. Puis son ascendance fulgurante, déjà depuis la prise de Toulon jusqu'à la retraite de Russie, j'imagine.
Bon, on va en sortir. Mais voilà,
on est en suspense et tout. Non, ça va être l'enfer. Dans tous les cas, j'ai vu un petit reportage d'une conservatrice du musée de l'armée. Ouais, c'est ça, qui était historienne. Et qui validait l'exactitude des costumes, à part que certains où voilà, ils se sont plantés de galons, parce que c'est compliqué, hein, les galons de l'époque napoléonienne. Mais elle a validé quand même
le
tout.
Des costumes assez sobres.
Pas pour les officiers. Hein.
Enfin, Napoléon.
Oui, Napoléon, lui, il était sobre. Oui, sobre. Ouais, absolument. Oui, c'était le seul. Hein. Ouais. De son armée. Non. À l'époque napoléonienne, tu avais le costume de marche, l'uniforme de marche, avec des guêtres spéciales que tu pouvais crotter à souhait. Et quand c'était le jour de la bataille, tout le monde se mettait sur son 31. C'était ça, hein, à l'époque napoléonienne.
C'est comme t'allais au bal.
Ah oui, on mourait en gland blanc et en grande tenue.
Ah ouais.
Et oui, parce qu'il fallait impressionner l'ennemi. Et d'ailleurs, pourquoi la grande armée est devenue la terreur, on va dire, de l'Europe, parce qu'ils manœuvraient, comme ils disaient les autres, ses ennemis, ils manœuvraient comme à la parade. Ils ne bougeaient pas. Ils manœuvraient en un seul bloc. Ça faisait peur, hein, je peux te dire. Et souvent, ils décochaient leur mousquet à 100 pas. 100 pas. C'est pas beaucoup, hein. Non. Et par ce temps-là, ils se faisaient tirer dessus. Puis en, par contre, quand ça allume, ça allume. Et là, c'est sûr que c'était le coup de mousquet et la charge. Voilà pourquoi l'infanterie était irrésistible, hein, de l'époque napoléonienne. Mais on n'a pas parlé du sommaire. On commence à s'enflammer, ce n'est pas bien. On va parler du sommaire parce qu'évidemment ça va être chargé cette semaine. Pourquoi? Ben déjà, on a des petits films pour l'enfant.
Oui.
On va avoir l'avant-première donc du Walt Disney.
Ah, très bien.
Du prochain Walt Disney là, qui se profile.
Ouais, c'est même pipé aux couleurs.
On va avoir Wish.
Des fêtes de fin d'année. Ouais.
Wish, un chat et la bonne étoile, hein, là aussi. Hein, ça va être le Disney de fin d'année. On va parler aussi, évidemment, de Napoléon. On va parler aussi d'un film italien, L'Enlèvement. Et on va parler également de la soirée du festival, enfin de l'association France-Amérique Latine, qui organise une soirée donc le lundi 27 novembre à 20h15. On va parler du film Toda Sporuma. On va parler de théâtre.
Bel accent.
De théâtre, toujours, je me souviens. Voilà un petit peu.
Très bien. Bah écoute, on va commencer par, comme d'habitude, dans l'émission, on revient au rendez-vous famille et aux
voilà.
Plus jeunes.
Alors, si vous avez aimé, voilà ces gros mythes, tous ces
génial,
petits personnages,
ouais,
ces en pattes qui bougent, qui sont vachement bien animés d'ailleurs. Hein. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle des films d'animation. Hein. On va passer l'incroyable Noël de Shaun le mouton. Donc c'est un film qui nous vient de Grande-Bretagne, de 52 minutes, animation, aventure, comédie, de Steve Cox, Liz Whittaker et David Sinlon. Alors Steve Cox, c'est le créateur de Wallace et Gromit, ainsi que Nick Park. Donc ça sera à partir de 3 ans. Donc cette année-là, Noël devrait être parfait, sauf qu'avec Shaun et son troupeau d'amis, rien ne se passe jamais comme prévu. Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible. Entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Alors évidemment, il sera composé de deux courts-métrages, dont le premier s'appelle « Joyeux Noël Timmy » de 22 minutes, hein, qui est une création de Jackie Cockle, réalisée par Liz Whittaker et David Sinlon. Et l'autre, c'est Shaun le mouton, « L'échappée belle », donc qui date de 2021, qui fait 30 minutes. Hein. Les personnages sont créés par Nick Park, hein, donc le créateur de Wallace et Gromit. Hein. Donc c'est d'après une histoire de Gilles Pilbrow et Mark Burton, réalisation de l'épisode « Steve Cox ». Donc voilà, donc l'incroyable Noël de Shaun le mouton, ça sera à découvrir à la brèche cette semaine. Et
les personnages sont-ils en pâte à modeler ou
en pâte à modeler? Ben on dirait bien.
Ah ouais.
Ils ressembleraient presque, je dirais. Ouais. Mais ça, j'en suis pas sûr, par contre. Par contre, le mercredi 22 novembre, dès 16h, vous aurez un ciné-goûter et un atelier. Donc comme Shaun et ses amis, préparons Noël tous ensemble, dès 16h, goûter offert et atelier de fabrication de décoration de Noël. Avant la projection du film à 16h45.
Bah c'est chouette.
Chaque mercredi, comme je l'ai dit la semaine dernière, oui, ma collègue Marjorie, qui est médiatiste culturelle aussi à Artec, vient donc animer des ateliers donc, voilà, avec les tout petits.
On
hein.
parlait de dessin l'autre jour dans l'émission précédente.
Oui.
Faire des petits dessins, mais là on va faire
des décorations de
des
Noël.
Décorations ouais, de Noël. Ouais. Et ça, c'est plutôt sympa pour occuper nos plus jeunes. Eh bien, souhaitez pour ce rendez-vous rencontre famille, ciné-goûter, atelier et également aller voir l'incroyable Noël de Shaun le Mouton.
À découvrir à la Brèche cette semaine.
Allez, on enchaîne avec un autre rendez-vous. Eh ben, Pascal.
Napoléon, nous y
ah,
voilà.
Ça y est, on était impatients.
Je vous ai tellement bassiné avec.
T'as vu, on va vite là.
Que nous y voilà.
On va être très impressionnés,
oui,
je
oui,
pense.
Oui, film anglais de 2h39. Un biopic, histoire, aventure donc de Ridley Scott, évidemment, que je ne vous présente plus, Ridley Scott. Donc c'est une fresque spectaculaire. Donc Napoléon s'attache donc à l'ascension et à la chute. Donc Ridley Scott s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Auteur d'épopées mémorables, Ridley Scott évoque le génie militaire ainsi que les stratégies politiques de Napoléon, tout en mettant en scène des séquences de batailles parmi les plus impressionnantes jamais filmées. Génial.
Ah oui.
Non, ça donne envie quand même.
Ah hein. Oui, c'est vrai.
Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment, on va dire, ça va être brossé dans les grandes lignes. Pourquoi ? Parce que déjà, le projet ne devait pas sortir au cinéma. Il devait sortir sur Apple TV.
Ah oui, tu en avais parlé.
Sous forme d'une série qui devait faire plus de 4 heures. Hein, plus de 4 heures. Ce qui est à peu près, je dirais, la durée à peu près, on va dire qu'il faudrait pour brosser un petit peu toute la vie de Bonaparte. Celui de Napoléon d'Abel Gance fait presque 6 heures.
Oui.
C'est un film qui a fait presque 6 heures. Donc c'est pour. Il est muet, le film, pardon, aussi.
Ah oui,
entièrement muet, mais par contre, il est vraiment excellent.
Ouais.
C'est un très très grand film. J'en ai vu quelques parties. C'est vraiment vraiment très bien fait. Alors Napoléon. Donc après le dernier duel, Jodie Comer et Ridley Scott devaient se retrouver pour Napoléon. Mais l'actrice choisie pour jouer Joséphine a dû abandonner le projet pour conflit d'agenda avant d'être remplacée par Vanessa Kirby. Le réalisateur déclare au sujet de cette dernière: si on a en tête une comédienne élancée et brune et qu'une jeune femme plus petite et blonde entre dans la pièce et qu'on la trouve intéressante, il faut garder l'esprit ouvert. Vanessa Kirby a incarné le rôle avec sensualité et une belle assurance, mais j'ai surtout été sensible à son humour. Elle possède un formidable sens de l'humour et un sens du rythme totalement intuitif qui la démarque des autres et font d'elle une personnalité singulière et intéressante face à Joaquin. Donc à l'origine, Napoléon était destiné à une sortie exclusive sur Apple TV. Et le film bénéficie finalement d'une sortie en salle avant d'être disponible à une date ultérieure sur la plateforme de streaming. Merci quand même. Ben oui, c'est des films à voir au cinéma. Donc si Napoléon est d'une durée conséquente, c'est-à-dire 2h38, je ne sais pas...
Ouais, ça reste plus, correct.
Ça,
va, hein,
ça reste, ouais,
on est plus long. Hein.
Ridley Scott a annoncé qu'une version longue pourrait bien voir le jour.
Ah.
En effet, le metteur en scène possède de nombreuses heures de rush. Avec tout ce matériel, il a de quoi faire un montage de 4h30. Mais déjà, au prix des scènes, ça serait bête de tout jeter. Oui. Compte tenu du prix que ça a coûté, parce que franchement, au niveau des costumes, c'est faramineux. Selon lui, cette version longue serait fantastique et contiendrait bien plus de scènes avec Joséphine de Beauharnais avant qu'elle ne rencontre Napoléon. Le cinéaste n'a pas précisé de quelle manière ce director's cut serait visible. Alors, ce n'est pas la première fois que Ridley Scott porte à l'écran des sujets historiques, évidemment. On lui doit en effet Les Duellistes, son premier long-métrage qui se déroule d'ailleurs pendant les guerres napoléoniennes. Et entre parenthèses, tourné en Dordogne. J'en avais parlé une fois.
Oui, c'est vrai.
1492, Christophe Colomb, Gladiator, Kingdom of Heaven, grand film, pareil, j'ai vu la version longue qui est très très bien, et Le Dernier Duel. Cela faisait longtemps que le réalisateur avait porté à l'écran le destin de l'empereur français. Enfin, il voulait. Et comme il nous dit, j'adore les récits historiques car l'histoire me passionne. L'histoire napoléonienne marque le début de l'histoire moderne. Il a changé le monde et redéfini les règles. Ça, c'est vrai. Ridley Scott donc retrouve Joaquin Phoenix qui incarnait Commode dans Gladiator. C'est après avoir vu l'acteur dans Joker que le réalisateur s'est souvenu de sa collaboration avec Phoenix et qu'il a compris qu'il serait parfait dans le rôle. Dès que je l'ai vu, tout m'est revenu, notre collaboration sur Gladiator, la manière dont il s'était approprié le personnage, et je me suis dit, bon Dieu, et voilà Napoléon. Il ajoute, c'est le seul comédien avec qui je m'entretiens pendant plusieurs semaines avant le tournage. On discute à bâtons rompus et on débat dans mon bureau des diverses facettes du personnage. En fait de compte, on est sur la même longueur d'onde et il me fait du bien parce qu'il m'oblige à rester intègre et je lui fais du bien parce que je l'oblige à être rigoureux. Physiquement, il correspond parfaitement au rôle et certains traits de son visage ressemblent à s'y méprendre à ceux de Napoléon. Ouais.
Bah, il s'est mis carrément dans la peau du personnage.
Oui, on va dire ça. Ouais.
Joaquin Phoenix.
Donc, pour se glisser dans la peau de Joséphine, donc Vanessa Kirby, qui ignorait tout de l'histoire de France, ça je sais, elle a dit bien des bêtises, a lu de nombreux ouvrages sur son personnage.
Il a fallu qu'elle bosse, hein.
Et comme il nous dit, on est allé à Paris, au musée consacré à Napoléon Ier, au château de Malmaison. Je me suis même rendu sur la tombe de Joséphine. C'était une immersion totale dans cette période de l'histoire et un grand honneur pour moi de découvrir sa vie. Un honneur, certes, mais une expérience des plus éprouvantes. Cela explique, comme l'explique l'actrice interprétée. Interpréter ce rôle a été douloureux et inconfortable, car dit-elle, c'est le lot de beaucoup de femmes. J'ai ressenti une immense compassion à son égard parce qu'elle n'avait pas voix au chapitre, alors même qu'elle était animée par une fougue et une incroyable énergie. Alors, réaliser Napoléon était un défi pour Ridley Scott, qui devait chorégraphier des séquences de bataille sur plusieurs centaines d'hectares, filmées à 360 degrés par plusieurs caméras. Il avait dit qu'il en avait, oui, c'est ça, il en avait 11 caméras. 11 caméras à la fois.
Bah, si disons, il faut avoir une sacrée logistique.
Ouais, 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 mais là, c'est franchement pour une scène de bataille qui se déroule, tu vois, sur des centaines d'hectares. C'est pas une caméra avec laquelle tu vas tout brosser. Donc, comme il nous dit, il s'agissait d'un dispositif de prise de vue complexe pour tous les chefs de département, mais particulièrement pour le directeur de la photographie et pour le chef décorateur. Le chef opérateur explique. On croit souvent à tort qu'en tournant à plusieurs caméras, l'éclairage et le cadrage risquent d'en pâlir, mais Ridley est extrêmement attaché au style visuel et on a mis au point une méthode extraordinaire pour éclairer un espace, installer les acteurs au bon endroit et trouver les angles de prise de vue intéressants. Darius Wolski a consulté les célèbres tableaux de Napoléon comme source d'inspiration. Il y a le Sacre de Napoléon de David et par la suite l'Étoile de Delacroix. Alors, évidemment, il y a une prise de vue qui est très pour très... Une peinture du 19e siècle qui est Napoléon à cheval devant le Sphinx.
Ah ouais.
Là, Ridley Scott a fait la même prise de vue, mais rigoureusement la même. Même angle, même cadrage. Quand on tourne un film d'époque, on cherche toujours à utiliser de la manière naturelle et comme chez Rembrandt ou le Caravage, quand la lumière provient d'une source unique, une large fenêtre, une cheminée ou des bougies, le résultat à l'image est magnifique. On a donc essentiellement tourné avec de l'éclairage frontal. Un peu comme dans les tableaux de David, l'éclairage est presque toujours focalisé sur Napoléon et les personnages principaux, tandis que tous les autres restent dans l'ombre. Étant donné que le réalisateur tenait à filmer à plusieurs caméras, les décors et lieux de tournage devaient être entièrement habillés et aménagés. Arthur Max était au départ anxieux face à l'ampleur de la tâche. Comme il nous dit, avec mon équipe, il fallait qu'on visionne le combo très attentivement. Il n'y avait pas d'arrière-plan avec Ridley. Il ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Les décors sont de grande envergure et ils fourmillent de détails. On a le sentiment d'évoluer à l'intérieur d'un tableau. C'est un vrai défi. Mais c'est jubilatoire. Et ouais, ils ont dû vraiment, vraiment s'éclater avec...
Et combien a mis de temps le tournage?
Est-ce que tu le sais, Pascal? Je crois que je ne l'ai pas ici.
Non, c'est une petite question personnelle. Savoir un petit peu combien de temps ça a mis, mais j'imagine que... Vu les moyens techniques,
ça a mis beaucoup de temps. Au moins une année, je pense. C'est un minimum, ouais. Je pense. Donc, pour l'essentiel, la production a cherché à tourner dans les environs de Londres pour ne pas avoir à déplacer l'équipe aux quatre coins de l'Europe, à quelques exceptions près. L'équipe a notamment tourné à Boughton Manor, situé dans le Northamptonshire, à environ 3 heures de route de Londres. Comme il nous dit, il a été construit au XVIIIe siècle par un francophile, un anglais passionné d'architecture française. On dirait vraiment un château à la française, niché dans un magnifique domaine de plusieurs centaines d'hectares avec des moutons, des chevaux et de somptueux chênes centenaires. C'était donc un site à part et on a choisi d'en faire le château de Napoléon, explique le chef décorateur Arthur Max. L'équipe a aussi tourné au palais de Blenheim dans l'Oxfordshire, dans les salles d'apparat du château de Fontainebleau et du palais des Tuileries et certains extérieurs. C'est un bâtiment néoclassique de style palladien. S'il s'agit de son envergure ou de la richesse de ses matériaux, il est sublime. On s'est aussi aperçu qu'on pouvait utiliser les extérieurs sous divers angles pour des scènes se déroulant dans plusieurs pays, lorsque par exemple Napoléon s'approche de Paris ou revient de Moscou, reprend Max. Ridley Scott et ses collaborateurs ont aussi retrouvé des sites qu'ils avaient déjà investis pour Gladiator, à l'instar de Bournemouth dans le Surrey et le fort Ricasoli à Malte. Alors pour tout ceci, il fallait des militaires.
Beaucoup, il fallait du monde.
Beaucoup. Donc il fallait l'entraînement militaire.
Ah oui.
Mais oui. Ça s'improvise pas. Donc pour reconstituer les grandes batailles menées par Napoléon, il ne suffisait pas de réunir de figurants en costume. Il fallait aussi les former aux manœuvres de l'époque napoléonienne. Le conseiller militaire Paul Bidis, qui a servi pendant 24 ans au sein du régiment de parachutistes avant de devenir consultant militaire sur des tournages, a mis en place un camp d'entraînement pour l'infanterie et l'artillerie. Étant donné que les scènes étaient filmées à plusieurs caméras, il était impossible de simuler l'action ou de la dissimuler en arrière-plan. Donc en tant que conseiller militaire, je consacre 60% de mon temps à la recherche et le reste vient de mon expérience au sein de l'armée, dit Bédis. Il se trouve que ce n'est pas la première fois qu'il est consultant à la mise en scène de grandes batailles des guerres napoléoniennes. J'ai affronté Napoléon 3 fois à Waterloo, je l'ai battu à chaque fois. Et oui, c'est facile à deviner quand même. Donc au niveau des costumes, donc, fidèle collaboratrice de Ridley Scott, le chef costumière Jane T. Yates a conçu les costumes de Napoléon. Pour ses recherches, elle s'est rendue en France pour mieux cerner les personnages. Et comme elle nous dit, évidemment, j'ai visité le musée de l'Empereur, le musée de l'Homme et le château de Malmaison, où Joséphine s'est retirée et a passé les dernières années de sa vie. En raison de l'envergure du tournage et du nombre de figurants nécessaires, Jane T. Yates a fait appel à David Crossman, expert en costumes militaires, qui s'est occupé de certains détails des tenues de Napoléon et des uniformes des différentes armées. Pour Crossman, le plus gros défi consistait à confectionner le très grand nombre de costumes nécessaires aux besoins du tournage. Ce qui est prodigieux. Et comme il nous dit, on pourrait croire que la plupart de ces costumes sont disponibles, mais ce n'est pas le cas. On ne pouvait pas les louer. On a confectionné environ 95% des tenues, étant donné les cadences infernales qu'on a imposées à l'usine pour produire toutes les pièces en un temps record. L'outil de travail de l'entreprise a failli tomber en panne. Waouh! Ils ont dû faire les 3-8,
c'est ça. 3-8. Spécialement pour Ridley Scott.
Voilà, énorme travail de reconstitution, de décors, de costumes. Voilà, c'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma, Ridley Scott. Ça rigole pas là-dessus. Hein. C'est pas du carton-pâte et
c'est du sérieux.
Du papier crépon. Hein. Non. Ça rigole pas du tout. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui fait rêver déjà avant d'aller voir le film. Tu vas tomber, regarde, voilà, c'est de l'immersion.
Ouais, il n'y a pas d'improvisation, ça a été.
Non, ça va être vraiment,
super
vraiment
bien travaillé.
De l'immersion. Hein. Mm-hmm. Voilà pour vous parler du tournage du film, donc de Napoléon.
Alors écoute, on va juste faire une petite parenthèse et on va retrouver un extrait de la bande-annonce de Napoléon.
Votre Majesté, nous sommes découverts.
Bien.
Attendez!
On est sur la glace!
C'est un piège!
Retirez-vous!
Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
Quel est votre nom ?
Napoléon.
Le cours de ma vie vient-il de changer ? Napoléon.
Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête.
Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le.
Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine.
À qui est ce pays ? À moi.
Voilà, Napoléon, ça y est, on est vraiment dans l'ambiance et sincèrement, le ton est donné pour ce film. La grande envergure et puis surtout des paysages et on retrouve une atmosphère un petit peu sombre des paysages d'antan qui ont été remis un petit peu au goût du jour sur ce film là.
Absolument, on va voir, à mon avis on va voir de tout
qui permet de vraiment être dans l'époque, hein.
Oui, on va se balader de Toulon, ça commence par les pyramides déjà, la campagne d'Égypte. Après on va aller à Toulon, après on va aller à Paris, après on va se balader dans le centre de l'Europe, Et je pense qu'il y aura un peu de retrait de Russie. Avant, il y aura sûrement Austerlitz. Parce que l'histoire du lac gelé, tout ça, c'est Austerlitz, c'est le final, c'est le finish de la bataille d'Austerlitz. Voilà, il y aura. Pour ceux qui connaissent un petit peu les grandes lignes, on va dire, de la vie de Napoléon, les grandes lignes sont là, je pense. Hein, je pense.
Alors, la suite, Pascal, pour l'émission En Tract.
On va parler d'un film italien.
Ouais.
Un film italien, on va parler de L'Enlèvement. Un film italien de 2h14 que nous aurons donc en version originale et version française. Hein. Donc, c'est un drame de Marco Bellocchio avec Paolo Pierobon, Enea Salla et Leonardo Baltese.
Très bien. Ça sent le parfum d'Italie.
Alors, c'est l'histoire. Oui, on est en plein dedans. Donc, en 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur l'ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé, et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Voilà bien une drôle d'histoire au milieu du 19e siècle. Alors L'Enlèvement revient sur l'affaire Mortara. Mortara, donc une histoire incroyable, mais pourtant vraie. Né à Bologne en 1851 dans une famille juive, Edgardo Mortara est le 6e des 8 enfants de Salomone Mortara et de Mariana Padovani. Alors qu'il est âgé d'un an et qu'il connaît un épisode de fièvre extrême, bien que ses jours ne soient pas en danger, Anna Morici, jeune servante catholique au service de la famille, craint pour sa vie et décide de le faire baptiser en secret. En 1857, les gendarmes de la papauté débarquent chez les Mortara et arrachent l'enfant à la famille pour le conduire à Rome sur mandat du Saint-Office de l'Inquisition sous le contrôle direct du pape Pie IX. L'Inquisition. Oui. Tu te rends compte quand même, c'est en 1851, ils sont encore énervés les gars. Il était super énervé. Donc c'est ainsi qu'Edgardo est élevé dans la maison des catéchumènes et des néophytes. Un séminaire créé pour la conversion, entre autres, des juifs et des musulmans. Comme quoi, ça rigolait vraiment pas. Il y reçoit une éducation catholique rigoureuse et se forme à la prêtrise. Brisés par cet enlèvement, les époux Mortara n'hésiteront pas à employer toutes leurs ressources, y compris financières, pour obtenir justice. Les diverses communautés juives en Italie et à l'étranger se mobiliseront pour les soutenir dans ce qui deviendra rapidement un véritable scandale international. Avec la libération de Bologne de la domination pontificale en 1859, l'affaire semble sur le point de pouvoir trouver une issue favorable. En effet, un décret publié par le nouveau gouvernement laïque établit l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion et l'abolition de l'Inquisition dans les anciens états pontificaux. Dieu merci. L'inquisiteur en personne, le dominicain Pierre Gaetano Feletti, est arrêté et jugé pour l'enlèvement du jeune Edgardo. L'issue de ce procès est néanmoins décevante. Le tribunal accueille favorablement la thèse soutenue par l'avocat de la défense, Francesco Giussi, selon laquelle l'inquisiteur n'avait fait que se conformer aux lois en vigueur à l'époque, obéissant aux ordres de ses supérieurs et du pape en personne. Ainsi, le premier procès pénal mené à Bologne pour le nouveau régime se conclut par l'acquittement du père Feletti. Une fois Rome libérée, Edgardo restera malgré tout fidèle au pape. Devenu prêtre, il essaiera jusqu'à la mort de convertir sa famille qui n'a pas voulu renier la religion juive. Alors ce qui intéressait Marco Bellocchio dans l'affaire Mortara était de mettre en scène un crime commis au nom d'un principe absolu. Et comme il nous dit, « Je t'enlève parce que Dieu l'a voulu ainsi, et je ne peux pas te rendre à ta famille. Tu es baptisé, et de ce fait, tu es catholique pour l'éternité. » C'est le non possumus du pape Pie IX. Il serait donc juste pour garantir son salut dans l'au-delà de briser la vie d'un individu, en l'occurrence d'un enfant n'ayant pas, du fait de son âge, la force de résister ni de se rebeller. Le réalisateur souligne aussi le crime perpétré par la famille Mortara. L'enlèvement du petit Edgardo symbolise donc la volonté désespérée ultra-violente d'un pouvoir déclinant qui essaie de résister à son propre effondrement en contre-attaquant. Les régimes totalitaires ont souvent de tels soubresauts qui leur donnent pour un temps seulement l'illusion de la victoire. Un bref spasme avant la mort. Ça, j'aime beaucoup la chute. Alors Edgardo Mortara est resté fidèle au pape et à la religion catholique et a essayé toute sa vie de convaincre sa famille de se convertir. Pourquoi ? La thèse qui prévaut est qu'il était trop jeune et influençable pour pouvoir résister. C'était la conversion ou la mort. ce que l'on appellerait aujourd'hui le syndrome de Stockholm, s'interroge Marco Bellocchio. Cette conversion radicale est mystérieuse et ce qui rend le personnage d'Algardo encore plus intéressant aux yeux du cinéaste, qui a décidé de s'intéresser à lui sans le juger. Comme il nous dit, on peut décider d'observer le phénomène et de l'extérieur, ou bien avec amour et empathie. Essayer simplement de mettre en scène un enfant victime d'une violence morale, puis un homme qui, demeuré fidèle à la foi de ses bourreaux, qu'il prend pour ses sauveurs, finit par devenir un personnage qui se passe de toute explication rationnelle. Ceci est un film, pas un livre d'histoire ni de philosophie. Il n'a pas de visée idéologique. Alors en 2016, Steven Spielberg avait pour projet de porter à l'écran l'affaire Mortara avec Mark Rylance devant la caméra de Tony Kushner ou à l'écriture. Et Tony Kushner, pardon, à l'écriture. Ce long métrage aurait dû être tourné après Ready Player One, qui date de pas très longtemps, entre parenthèses. Le réalisateur devait collaborer à l'époque avec Harvey Weinstein, bon, qui peut plus maintenant, avant que le mouvement MeToo n'émerge. Mais les deux hommes étaient en désaccord sur plusieurs points et Weinstein avait décidé de développer de son côté une autre adaptation de l'affaire avec Robert De Niro au casting et l'Islandais Balthazar Kormákur à la mise en scène. Ces deux projets ne verront finalement jamais le jour. Eh ben, bravo Marco Bellocchio, t'es passé entre les gouttes. Parce que là, t'avais quand même deux gros poids lourds du cinéma qui auraient joué des coudes quand même sur le marché du film. Hein. Donc, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire effrayante. D'ailleurs, je ne savais pas encore que l'Inquisition existait encore.
Ouais.
Ces affolodingos ont vraiment résisté jusqu'au milieu du 19e siècle. Je suis épaté qu'ils aient duré aussi longtemps et qu'on les ait maintenus aussi. Et que les papes les ont gardés quand même sous leur aile, au cas où, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Quelle horreur. Voilà un film intéressant et une drôle d'affaire.
Ouais.
À découvrir à la brèche cette semaine, L'enlèvement de Marco Bellocchio.
C'est noté, Pascal, pour ce petit voyage en Italie. Alors.
Merci pour la musique, la régie.
On se met dans l'ambiance, hein, je vous en prie. Alors on va poursuivre avec un autre rendez-vous, Pascal. Tu nous as choisi, un film français.
Ah, pas du tout.
Ah non, d'accord, non. C'est pour après.
Do Brasil.
Ah oui, d'accord. Do Brasil. On va au Brésil, carrément.
Et on va aller au Brésil.
Bon, d'accord.
On va parler de la de la soirée France-Amérique latine qui se déroulera le lundi 27 novembre à 20h15 à La Brèche. Vous pourrez découvrir le documentaire de Jeanne Doss. Documentaire brésilien de 1h38 intitulé Todas por Uma. Donc ça veut dire Toutes pour une nuit, le processus de création de la pièce As Comadres au Brésil sous la supervision d'Ariane Mnouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil. 20 comédiennes de différents horizons se réunissent pour vivre sur scène une comédie musicale autour de l'univers féminin. Au-delà des questions théâtrales, le film porte aussi sur le désir et l'effort constant de ces femmes pour échapper aux mécanismes dominants de notre société et reformuler les paradigmes du travail collectif. Alors, séance organisée donc par France Amérique Latine 33 avec les acteurs départementaux de l'éducation et à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Un nouveau réseau piloté par France Amérique Latine 33. Après la projection, rencontre avec l'association et l'association Foyenne, donc les rateleurs, qui organise chaque fois ce genre de manifestation, hein, qui reviendront sur l'expérience bouleversante du film de Jean Doss, ouvriront des pistes de réflexion pour un agir collectif, conscient et novateur pour nos territoires. Tout un programme.
J'adore.
Toute une soirée.
Ouais.
Où vous pourrez participer. Donc je vous rappelle quand même la date.
Ah.
Le lundi 27 novembre à 20h15. Todas por Uma.
Voilà, voyage au Brésil.
Au Brésil, sur les planches de théâtre.
Très bien. Voilà, on voyage beaucoup dans cette émission, hein, finalement.
On voyage énormément, mais c'est bien le propre du cinéma. C'est voyager à pas cher, comme je dis.
Ouais, c'est ça, ouais. On va beaucoup voyager avec Napoléon, mais après...
On va se mettre
au chaud après.
Il
fait
beaucoup de kilomètres.
Au Brésil. Ouais. D'ailleurs, on a une pensée pour nos amis brésiliens en ce moment. Il fait très très chaud.
Il fait très très chaud là-bas, oui. Effectivement, ils subissent...
Le maillot de bain n'est pas nécessaire.
Tu t'avais parlé du phénomène El Niño.
Ouais.
Bah là, ils le prennent en pleine tronche. Hein.
Ah ouais.
Au soleil, le ressenti était de 60 degrés. On est limite dans le désert d'Atacama ou le désert...
C'est du jamais vu, non ?
Du Sahara. C'est du jamais vu, oui. Ils ont pété des records. Je pense que tout le monde a pété des records cette année.
Ouais.
D'ailleurs, on a pété des records dans les extrêmes, que ce soit en termes de chaleur ou de pluviométrie. Mmh. Là, c'est dans le nord de la France.
Ce sont des déséquilibres.
Ils ont pété les records dès 1988. Entre parenthèses, dans le Pas-de-Calais. Mmh. Et ils ne sont pas sortis d'affaires, entre parenthèses. On croise les doigts pour eux, franchement, que ça se passe relativement bien, mais c'est vraiment...
C'est compliqué.
C'est très pluvieux. Très, très pluvieux, là-bas.
Alors, on enchaîne avec la suite de l'émission, Pascal.
Oui.
Là, il y a de la recherche et de l'écriture.
Alors, oui. Alors, évidemment, faire un papier sur Napoléon, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu ne peux pas brosser le personnage en trois pages. Voilà. Donc, il fallait choisir quelque chose.
C'est complexe.
Je n'allais pas vous choisir les grandes batailles.
Ouais.
C'est pas très intéressant à la radio, parce que c'est quelque chose qui se pose sur des cartes pour mieux comprendre. Je n'allais pas vous parler non plus de politique pour ne pas ennuyer tout le monde. Mais par contre, un chapitre qui est intéressant de sa vie, c'est la jeunesse de Bonaparte. Comment
c'est venu tout ça?
Oui, comment on débarque de Corse, comment on arrive en France et comment on finit à l'armée en tant que sous-officier et général.
Ouais.
Parce que sa ascension a été quand même assez fulgurante.
Alors on a eu d'autres personnages comme ça qui ont évolué très vite dans le temps, dans la montée du nazisme. On avait
Tu parlais de Hitler?
Ah oui, il y avait lui.
Mais il était caporal, lui.
Oui, mais non, mais c'est ça. C'est surprenant. Hein.
Oui, mais il n'a jamais été général, Adolphe.
Oui, non, mais d'accord.
Il est passé, lui, direct détecteur.
Voilà, mais ce sont des personnages étranges. Hein.
Oui, au niveau de la vie.
Comment ils ont pu monter comme ça en passant.
Ah, tu parles de la fulgurance.
Oui, c'est ça.
Mais après, il y a aussi le phénomène aussi de la fulgurance dans l'histoire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont marqué l'histoire, mais sur un très petit segment historique.
Ouais.
Tu vois, Napoléon, c'est quoi? C'est 20 années, pas plus. Tu vois,
oui,
ça s'arrête là. Lui, il était réformateur.
C'était musclé. Quoi.
Voilà, lui, il était un grand réformateur, quand même, Bonaparte. Hitler, non, c'est un grand destructeur.
Ah, non, mais oui.
Il ne réformait pas.
Autant il y en a qui réformait, l'autre qui détruisait. Oui.
La jeunesse de Bonaparte. Alors, allons-y. On va parler de la...
Ce qui m'intéresse,
tu veux dire, oui.
Non, oui, effectivement, c'est souvent les parents derrière. Il fallait
les parents qui conditionnent.
Ben oui,
absolument.
Tu vois.
Ah ben sa mère, Laetitia, quand même, Laetitia Bonaparte, oui, elle a joué un grand rôle dans sa vie. Il le dira d'ailleurs de son vivant. Hein.
Ouais.
Si elle n'avait pas été là, il dira d'ailleurs, je dois tout à ma mère. Ça, il a dit souvent Bonaparte ça.
Alors une question, oui. C'est son vrai nom, Napoléon.
Absolument.
D'accord.
Oui, c'est pas un canular.
Ça aurait pu être un nom d'emprunt. Hein.
Non, mais il soit italien, là-bas, tu sais.
Non, mais d'accord.
Mais c'est pour ça, Napoléon. Ouais.
Ah, ok.
Bonaparte.
Ah, très bien.
Et ça
me parle mieux, là.
Tu vois, c'est leur premier nom. Ils sont devenus Bonaparte.
Ouais.
Donc, la famille Bonaparte, devenue Bonaparte, est une famille des plus illustres d'Italie. Et c'est au 15e siècle... Donc, au fil des guerres incessantes, qu'elle trouvera refuge en Corse et se fixera à Ajaccio. Donc, la Corse est française depuis le 15 mai 1768, après que Louis XV l'ait achetée aux Génois. La Corse est restée 5 siècles aux mains des Génois, faut pas l'oublier ça. Mais déjà, les indépendantistes corses, dirigés par Pascal Paoli, ne l'entendent pas de cette oreille. Et le 9 mai 1769, la bataille de Ponte Nuovo, alors ça tous les Corses connaissent, hein, met fin à leur espérance. Et ils sont battus à plate couture par l'armée française. C'est la seule fois où les Corses affronteront frontalement l'armée française. Donc c'est une lourde défaite pour les indépendantistes. Et c'est suite à ça, en fait, que si tu veux, Charles-Marie Bonaparte, donc le père de Bonaparte, va passer dans le camp français pour essayer d'assurer un avenir à sa nombreuse famille. Et c'est le 15 août 1769 que viendra au monde Napoléon, dans cette famille, de 13 enfants. Dont seulement,
13 enfants,
13 enfants, dont seulement 8 d'entre eux parviendront à l'âge adulte. Oui. Napoléon dira de sa jeunesse « Je n'étais qu'un enfant obstiné et curieux ». Il faut ajouter à cela une vivacité d'esprit hors du commun et une sensibilité précoce et une activité sans mesure. Personne ne lui en imposait, excepté sa mère pour qui il avait le plus profond des respects. C'est donc sa mère qui va instruire Napoléon dans le domaine du devoir, de la religion, et dira ceci « Ce que j'ai de grand en moi, c'est à ma mère que je le dois ». Son père Charles deviendra le représentant de l'Assemblée Corse à Versailles, jetant un pont entre la Corse et la France et favorisera l'avancement de sa famille comme l'obtention de bourses, mais cela aura un effet néfaste dans la mesure où celui-ci se ruinera car paraître à la cour coûte une véritable fortune. Ayant obtenu deux bourses pour ses fils, dont Joseph et Napoléon, alors Joseph partira étudier à Autun et Napoléon partent pour le continent et c'est au collège donc de Brienne, le collège militaire, que Napoléon étudiera. Donc il arrive à l'âge de 10 ans, il faut bien se mettre un petit peu dans la tête que c'est un gamin de 10 ans qui débarque en France, hein. Il est seul. Hein. Il arrive dans le lycée de Brienne, et il se retrouve au milieu, on va dire, de la fine fleur, on va dire, de la noblesse française. Hein. Lui, c'est un petit hobereau corse, hein, qui débarque. Hein. Donc je te dis pas le rapport social qu'il a dû avoir assez dur, hein, avec ses corrélégionnaires. Et en plus, imagine bien qu'ils ont dû bien se foutre de sa gueule, parce qu'il avait un sacré accent. Hein. À moitié corse, à moitié, tu vois, un peu italien. Donc, seul, loin des siens, il a à peine 10 ans. Le choc est rude pour ce jeune garçon, car tout diffère de sa vie en Corse, notamment la langue, qui reste pour lui un véritable obstacle. Il subira aussi de véritables humiliations de ses condisciples qui viennent de toute la grande noblesse et qui le traitent comme un petit immigré. Il est remarqué par ses professeurs pour ses qualités. Et il est aussi mis à l'écart par la plupart de ses camarades pour son intransigeance morale et sa fermeté devant les brimades. T'imagines le mec, déjà. L'un de ses professeurs écrira à son sujet, et là, ça c'est historique, « J'aperçois chez ce jeune homme une étincelle qu'on ne saurait trop cultiver. » C'est pendant l'hiver du début 1784 que se situe la fameuse scène de la bataille des boules de neige. Alors ça, tout ce qui est un petit peu étudié l'histoire... connaissent un petit peu ce pugilat qui a eu lieu dans la cour du lycée de Brienne. Donc, scindé en deux groupes et retranché derrière des parapets et des redoutes faites de neige, Napoléon commandera sa première bataille en prenant la tête des attaquants jusqu'à ce que ce pugilat soit stoppé et interdit au vu du nombre de blessés. Pourquoi ?
Tu m'étonnes.
Non, pourquoi il y a un nombre de blessés ? C'est une bataille de boules de neige.
Hein ? Ouais. Je ne sais pas. Non.
Parce qu'il mettait des cailloux.
Ah non, c'est pas joli ça. C'est pas joli.
Et donc, comme il se battait derrière des redoutes, bonhomme Napoléon prend la tête de son escouade et lui part à l'attaque.
Ouais.
Sort de ses fortifications et c'est là qu'il va remporter sa première bataille. C'est ce jour-là. Donc, il quitte Brienne à l'école à l'automne 1784 et le voilà cadet gentilhomme à l'école militaire de Paris. Il choisit l'artillerie et devient le premier parmi tous les élèves. Un de ses professeurs dira de lui « Corse de nation et de caractère, il ira loin si les circonstances le favorisent. » Effectivement, il saoulait tout le monde avec sa Corse.
Tu m'étonnes.
Il saoulait tout le monde. En février 1785, son père meurt et Napoléon devient chef de famille et c'est en septembre que Louis XVI lui signe son brevet de lieutenant en second. Et en novembre, il rejoint son régiment à Valence. Il est sous-officier. Il a 16 ans.
Ouais, déjà...
16 ans.
Ça annonce la couleur.
En 1789, à la Révolution, il a 20 ans. L'âge où tout est possible, c'est à Valence qu'il apprend que les Parisiens ont pris la Bastille. S'il est favorable aux idées de la Révolution, il est farouchement opposé à toute manifestation de désordre, surtout si l'armée est concernée. Et oui, c'est quelque chose qu'il ne supportera jamais, et toute sa vie. Le désordre, l'anarchie, les barricades dans les villes, tout ça, il ne le supportera pas. Le 4 août 1789, un événement inattendu lui ouvre les portes des hauts grades. C'est l'abolition des privilèges votés dans la nuit. Et oui, les portes s'ouvrent. Parce qu'avant, seuls les nobles pouvaient espérer au plus haut grade, on va dire. Plus rien maintenant ne s'oppose à son ascension. Comme tous les militaires, il prête serment de fidélité à la nation le 23 août 1789. La révolution dérape et les violences se multiplient sans que rien ni personne ne puisse les contenir. Le 30 juillet 1792, son brevet de capitaine est signé par Louis XVI encore. De retour à Paris, il assiste, dégoûté, le 10 août 1792 à la prise des Tuileries et au massacre des gardes suisses. Et à la passivité de Louis XVI, ça va le rendre malade. Il dira à cette occasion la phrase suivante. Comment a-t-on pu laisser entrer cette canaille ? Il fallait en balayer 4 ou 500 avec du canon et le reste courrait encore. Voilà un petit peu.
Ah, l'esprit.
C'était un militaire.
Ouais.
L'ordre avant tout. Le 21 septembre 1792, la première République française est proclamée et Louis XVI n'est plus qu'un simple citoyen. Pascal Paoli profite de la Révolution pour quitter son exil d'Angleterre. Il monte à Paris et obtient le commandement militaire de la Corse pour y retourner et raviver son vieux projet d'indépendance. Et oui, il est quand même en vieux roublard. Mais se remettre aux attelages de la Révolution. Napoléon, qu'il admire, n'est pas dupe pour autant. Il sait qu'il se sert du pouvoir donné par la France pour la trahir. Donc Napoléon finira par se brouiller avec l'indépendantiste et c'est ce sont les Corses qui se retourneront contre les Bonaparte, qui devront quitter précipitamment l'île pour le continent. Et oui, là, ils ont sauvé leur vie, là, toute la famille, ce jour-là. Ils se sont sacrément brouillés parce que le père, les Bonaparte ont accusé Paoli d'acquaintance avec l'Angleterre, ce que Paoli n'a pas du tout apprécié, et encore moins ses petits copains. Donc il débarque en France le 13 juin 1793 et installe sa famille à Marseille. Le 28 août 1793, la ville de Toulon, dont la flotte anglaise est ancrée dans sa rade, entre en insurrection contre la République et Louis XVII y est proclamé roi de France. Et c'est le 17 septembre 1793 que Napoléon remplace le capitaine Dom Martin qui a été blessé au combat lors d'une tentative d'assaut sur la ville. Le général Carteau, à la tête des opérations, est incapable de trouver une solution pour faire tomber la ville. Il confie donc l'entièreté des opérations à Bonaparte. Il réorganise donc du coup... Napoléon réorganise donc la tenue du siège, renforce sa puissance de feu et fait chauffer au rouge les boulets destinés à pilonner la flotte anglaise et chargera lui-même plusieurs fois une pièce d'artillerie sous le feu ennemi. Et c'est en maniant le refouloir qu'il contactera la gale. Je t'en avais parlé une fois.
Ah oui, c'est vrai. Oui, exact.
Et oui, et d'ailleurs, son médecin va mettre des années avant de le guérir. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il va manier ce refouloir devant le siège de Toulon. Lors d'une réunion concernant la stratégie à employer, il dira, en regardant la carte et en regardant ses supérieurs, « Toulon est là en pointant le fort de l'Aiguillette, sous le regard amusé de ses supérieurs qui pensent qu'il ne connaît pas bien sa géographie. » Et Bonaparte rétorque, « Quand on aura pris ce fort, Toulon tombera, car on pourra canonner les vaisseaux anglais. » Et oui, il avait vu juste. Après les premiers coups de canon qui touchèrent donc les premiers bâtiments anglais, la flotte n'eut d'autre choix que de lever l'ancre et d'évacuer la petite rade le 20 septembre 1793. Alors du coup, les Anglais ne vont pas se laisser faire. Hein. Tu penses bien.
Avant
de garer leur navire, ils avaient débarqué sur terre. Donc les Anglais débarquent alors pour construire une redoute bien pourvue de canons. C'est devant celle-ci que Napoléon s'exposera au feu ennemi, montrant l'exemple à ses troupes. Il baptise cette position « Batterie des hommes sans peur ». Et c'est vrai qu'il fait mettre une pancarte hein, sur la batterie. Il prend la tête et demande des volontaires courageux pour l'aider. Son action entraîne donc une foule de soldats qui se bousculent pour servir ses canons. Comme quoi, être devant la troupe au plus fort des combats galvanise sa troupe.
Ah mais c'est clair, ouais.
Le 17 décembre 1793, les Français partent à l'assaut de la redoute anglaise et du fort de l'Aiguillette, deux positions clés de la défense de la ville. Les Français parviennent enfin à reprendre ces deux forts au pas de course. La totalité des deux rades et la ville sont alors sous le feu des batteries françaises. La flotte anglaise lève enfin l'ancre, sous peine d'être coulée au mouillage. Toulon a capitulé et Bonaparte est le seul architecte de cette victoire. L'armée française retrouve le moral et son chef de corps, le général Tuteil, écrira à son sujet. Beaucoup de science, autant d'intelligence et trop de bravoure, voilà une faible esquisse des vertus de ce rare officier. C'est à toi, ministre, de le consacrer à la gloire de la République. Le général Dugommier, avec qui Bonaparte s'entendait à merveille, finira sa correspondance par ces mots. Si on était ingrat envers lui, cet officier avancerait tout seul.
C'est pas joli, ça.
Bonaparte a 24 ans et la légende ne fait que commencer.
Ouais.
C'était la levée du siège de Toulon. Voilà un petit peu le...
Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Hein.
La jeunesse de Bonaparte, qu'on va retrouver en partie. Voilà, qu'on va retrouver en partie, notamment sur le siège de Toulon, que Ridley Scott a filmé et donc a mis en lumière, on va dire, par son cinéma. Voilà, vous venez maintenant de comprendre qui était ce drôle de personnage, plein de détermination. C'est vrai qu'il était destiné à, on va dire, aux plus hautes fonctions. Et il surpassait de très loin ses corrélégionnaires, surtout dans les commandements. Surtout sur les champs de bataille, notamment là, pour la prise de Toulon. Personne n'avait trouvé la solution. Ben, il fallait déjà prendre des risques et galvaniser ses troupes. C'était déjà un des premiers, au moins un effort à fournir pour essayer de remporter la victoire. Mais alors, que tout le monde traite Bonaparte, c'est pour ça que j'ai fait un second papelard. Tout le monde traite Bonaparte de dictateur, tyran,
ouais, de rebelle.
Celui qui a envahi l'Europe. Il faut savoir une chose, c'est que si vous étudiez un petit peu la vie de Bonaparte, il aura proposé la paix. À chaque fois, évidemment, il voulait proposer la paix sur en position de force. Mais ça, c'est une vieille stratégie, on va dire. Mais il faut bien vous dire une chose, et j'en veux pas forcément aux Anglais, mais ceux qui tiraient les ficelles un petit peu dans l'ombre et qui envoyaient de l'argent aux puissances d'Europe centrale pour pouvoir lever des armées, pour lutter contre Bonaparte, c'était les Anglais. Parce que les Anglais n'avaient pas l'infanterie nécessaire pour le battre. Ils avaient la marine, mais pour l'infanterie, il leur fallait les Russes, il leur fallait les Autrichiens, il leur fallait les Prussiens. Alors voilà, pour essayer d'arrêter, on va dire, l'hégémonie française, parce qu'effectivement, ce qu'ils n'ont pas supporté les Anglais, c'est la prise d'Anvers. La prise d'Anvers, comme disaient les Anglais, c'était un revolver braqué sur l'Angleterre, et ça, ils n'ont pas supporté. Et voilà, donc ils voulaient vraiment le stopper de ce côté-là, quoi. Et c'est là que ça se sera enchaîné, on va dire, toutes les batailles, on va dire, Wagram, Elzing, Austerlitz, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Mais on parlait aussi du Napoléon réformateur. Alors, là, j'ai mis la petite liste, au moins, ce qu'il a laissé à la France. Une petite liste, d'une page.
Tu avais évoqué quelques sujets qu'on a toujours d'actualité en ce moment, oui, dans le cadre du fonctionnement de la France.
Et voilà, donc quel est l'héritage de Bonaparte qu'on peut encore apprécier de nos jours, entre parenthèses?
Alors, c'est pas les 35 heures, non?
Non, 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 non. On va commencer par les monuments.
Ah oui,
L'Arc de Triomphe.
Ouais.
De Paris, de Marseille, de Montpellier. C'était Bonaparte.
D'accord.
La transformation des Invalides en complexe militaire.
Ah oui.
L'extension du palais des Tuileries, qui n'est plus brûlé à la Révolution en 1800 et quelques. Je sais pas si c'est 1830, il me semble.
Ouais.
La création du canal de l'Ourcq, le pont des Arts d'Austerlitz et de Iéna, ça c'est Bonaparte. Alors le pont de Iéna, entre parenthèses, après Waterloo, il y a un général prussien qui était super remonté contre la France et qui voulait absolument pénétrer dans Paris pour dynamiter le pont de Iéna.
Focalisé.
Il s'appelait Blücher, il avait pris une grosse rouste sur le champ de bataille. Son armée a été détruite, hein, il n'a même pas pu se replier en bon ordre. Il avait très mal pris et il gardera une haine farouche de Bonaparte. D'ailleurs, il va même lui damer le pion à Waterloo. Qu'a-t-il aussi laissé? Le percement de la rue de Rivoli, l'église à la Madeleine, la bourse du commerce, la numérotation des rues.
C'est
Bonaparte. Ouais. La colonne Vendôme, qui a été faite à l'embronze, la colonne Vendôme. Mais c'est tous les canons d'Austerlitz que tu vois là, qui ont été fondus.
Ouais.
Tous les canons d'Austerlitz.
Okay.
La création de la ville de La Roche-sur-Yon, le canal de Saint-Quentin qui relie la Somme à l'Escaut. Comme c'était, par souci du commerce fluvial. Les routes transalpines, la rade de Cherbourg. Et pour finir, le pont de Pierre de Bordeaux.
Alors ça, oui.
Oui, messieurs, dames, c'est Bonaparte.
J'en avais entendu parler, effectivement.
Au niveau des plantations,
c'est bien une réalité.
Ouais, au niveau agricole, les plantations de chicorée pour remplacer le café. Il faut savoir que l'anglais faisait chier dans les îles.
Hein.
Ah oui. Tu coupais la route du café, la canne à sucre, on est d'accord. Hein. Donc la plantation de la chicorée pour remplacer le café. Est-ce que mamie ne mettait pas de la chicorée dans le café? T'as jamais vu mémé de la chicorée? Bah, c'est grâce à Bonaparte.
Ben merci.
Ça date de Bonaparte.
D'accord.
Les plantations de betteraves pour remplacer le sucre.
Oui.
Mais oui. Et le développement de la culture de la pomme de terre. C'est Bonaparte. Donc il a fondé l'État moderne avec la centralisation du pouvoir, tu penses bien. La création du corps préfectoral pour administrer les départements. Il a créé le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, le Sénat, le Conseil des prud'hommes. Il y a pire comme dictateur quand même. Hein.
Ouais.
La Légion d'honneur en 1804.
Merci.
Qui non basée sur le sens et la noblesse, mais sur le mérite. La création du lycée en 1806, de l'université, du baccalauréat en 1808, la création de la Banque de France en 1800, le Trésor public, la Bourse de Paris, la Banque du commerce, la signature du Concordat qui redonne une place à l'Église. Et oui, la Révolution avait complètement, on va dire, trépané l'Église catholique. Et bien, il signe le Concordat avec le catholicisme. Le Code civil de 1804 pour unifier le droit français autour de 36 articles clairs et simples. Donc c'est le triomphe du droit à l'égalité de tous devant la loi. Le droit absolu de la propriété privée, la reconnaissance de la famille comme cellule de base de la société avec sa tête, le pater familias. Et le code pénal de 1810. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien qu'il aurait été la transition entre l'ancien monde, le monde féodal,
ah oui,
et la société moderne qui était en train de se profiler. Voilà le bohème Bonaparte, le pont qu'il jette entre les deux. Et son rêve, c'était ça. C'est, avec le code civil, d'ailleurs, certains pays d'Europe vont adopter le code civil. Chaque fois que les armées vont avancer, ben on va avancer avec les idées, on va dire, de la Révolution. Et Bonaparte en est l'héritier, on va dire, quelque part. Ben, les pays comme l'Autriche, l'Allemagne, enfin, la Prusse, vont adopter le code civil. Parce que justement, c'est l'occasion de se défaire de ces lois féodales. Ça va grincer au début, hein, parce qu'il y en a certains qui vont demander, comme je crois que c'est les Autrichiens ou les Prussiens, de garder un petit peu le servage et tout. Les gars étaient un peu restés, on va dire, au néolithique, quoi. Donc, les maréchaux ont été fermes là-dessus, comme Davout, ou, voilà, qui ont régenté ces régions-là. Ils ont dit non, ça sera le code Napoléon, donc ça sera l'égalité. Et c'est aussi par ce code civil que, en fait, que Napoléon voulait, on veut dire, pacifier, on va faire accepter, on va dire, le passage des armées, parce que c'était quand même la guerre, faut pas oublier non plus, derrière. Hein. Mm-hmm. Voilà un petit peu pour vous éclairer. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, on a brossé les grosses lignes, il reste encore bien des choses à dire, on pourra en parler pendant des heures, mais au moins.
Vous ne serez pas perdu dans le film.
Ouais, quelques petites lanternes, quelques petites bougies qui vont venir vous éclairer certaines facettes de son histoire et puis son héritage qui n'est pas rien. C'est quelque chose qui était. Voilà, on rentre dans le modernisme, au début du 19e siècle.
Voilà, Napoléon que l'on connaît un petit peu mieux là, à travers ces éléments que tu viens de donner, parce que c'est très intéressant et on pourra peaufiner notre culture générale dans ce film de Ridley Scott.
Voilà. Oh là, vous pourrez lire des livres. Combien de livres ont été écrits sur Bonaparte ?
Oh là.
Dis un chiffre.
Alors des livres ?
Oui.
Allez, 300. Un peu plus ?
Je dirais énormément plus.
D'accord.
Bon. 300, c'est pas beaucoup pour le personnage que c'est.
Non,
hein.
Non, mais c'est des gros bouquins.
10 000.
10 000.
10 000, comme quoi il en a inspiré quelques-uns.
Ah, c'est fou.
Oui.
En tout cas, on va se régaler dans ce film.
Bien sûr.
Qui est donc diffusé cette semaine à La Brèche. Et vous aurez d'autres rendez-vous, bien sûr, à découvrir aussi. D'autres rendez-vous différents, mais que tu as évoqués au cours de cette émission. Bon, Pascal, on va s'équiper en Napoléon et on se retrouve habillé en costume d'époque.
Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est avoir une discussion après, si tu veux, sur le film, c'est aller regarder un petit peu ce qu'a fait Ridley Scott, le pourquoi, ce qui coince pas, on ne sait pas en fait ce à quoi on va s'attendre.
Petite critique à la sortie des cinéma.
Voilà, mais déjà, je sais qu'il y a plein de puristes qui l'ont attaqué un petit peu comme ça, là, qui lui sont tombés un petit peu sur le doigt, Ridley Scott, et puis ça l'a un peu amusé, puis ça l'a aussi un petit peu énervé. Il a expliqué qu'il a très bien expliqué sa démarche. Hein. Il n'est pas là pour faire du Abel Gantz. Hein. Il a mis en scène, on va dire, le personnage, son ascension, son rapport avec Joséphine de Beauharnais.
Ouais.
C'est vraiment axé dessus. Hein. Parce qu'autant c'était un personnage très très respecté, on va dire, au sein de ses armées et des Français au début, hein, avant la campagne des 100 jours. Mais devant les femmes, c'était autre chose.
Voilà, et puis ça, c'est aussi une autre facette de voir Napoléon. Enfin, parce qu'on a eu des films, on a eu pas mal de films qui sont sortis sur Napoléon.
Il y en a énormément.
Mais différents.
Énormément.
Quoi,
ouais.
Donc ça sera aussi un petit compliment. Voilà. Quoi.
Pour ceux qui sont fans, je vous recommande le Napoléon de Abel Gantz. Celui-là, il va être compliqué à trouver.
Ouais.
Mais sinon, si vous voulez voir un film réalisé par un russe, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom. Mais en tout cas, le film s'appelle Waterloo. Il date de 1962, il me semble. Hein, et c'est joué par Rod Steiger, qui joue super bien Napoléon. D'accord. Tu t'en souviens de ce film ?
Oui.
Il fait 4 heures. Hein.
Ah oui.
Il fait 4 heures. Vous l'avez sur YouTube.
Ah.
Vous l'avez sur YouTube. C'est gratos. Il est en deux parties.
C'est bien.
C'est très très bien.
Ouais.
C'est super bien. Donc je vous amène vraiment à le découvrir. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est très 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 chouette.
Bon, on va prendre son ticket. On va réserver une place au premier rang pour aller voir Napoléon cette semaine.
Ouais, super.
Avec les bruitages, la musique, l'ambiance, les paysages, et puis le personnage surtout. Hein.
Absolument.
Joaquin Phoenix.
Ouais, moi il me tarde un peu, donc on va regarder ça avec grande attention.
Voilà, on fera une petite débrief.
Voilà, et puis ça fera un super démarrage, hein, parce que mine de rien, mais rien n'est jamais gagné d'avance. Mm-hmm. Donc on va voir un petit peu le démarrage de ce film-là, mais je pense que ça fonctionnera, je pense.
Pascal, merci pour cette explication en tout cas. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très vite sur les ondes de Radio Grand Air.
Avec plaisir.
Alors, je te laisse le mot de la fin.
Et oui, mais prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air. Et venez voir Napoléon au cinéma. Plus, et après tous les films que j'ai présentés, il y a plein de choses à voir. Hein. Donc voilà, on vous attend avec impatience. Bonne semaine à tous.
Et n'oubliez pas de préparer la déco de Noël.
Absolument. Oui, c'est vrai que ça commence.
À la semaine prochaine.